Chapitre 14. En ce temps-là, lisons-nous au premier verset, Hérode entendit parler de la renommée de Jésus. Au moment même où il est méconnu à Nazareth, sa renommée parvient aux oreilles de cet homme impie et touche, semble-t-il, sa conscience endurcie. Il est d'autant plus remarquable qu'il ait cru que Jean était ressuscité des morts, que nous entendons Paul dire à un autre Hérode, « Pourquoi parmi vous juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite des morts ?» Acte 26, verset 8. Ce que, comme fait historique, il ne pourrait pas croire, est admis par une conscience coupable. Cela conduit Matthieu à nous rapporter l'histoire du martyre de Jean qui avait eu lieu peu auparavant. Le témoignage fidèle de Jean avait suscité la colère d'Hérode, ainsi que la vengeance d'Hérodias, et le précurseur du Seigneur est mort à cause d'un serment impie. Hérode a transgressé la loi de Dieu pour assurer le crédit de sa propre parole. Tel était l'homme qui gouvernait une grande partie des Juifs, un châtiment certain pour leurs péchés accumulés. Or, Jean avait toujours fidèlement dirigé les regards sur Jésus, et le peuple reconnaît que, même s'il n'avait fait aucun miracle, toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. Jean 10, verset 41. Le fruit de cette belle fidélité de Jean à Jésus est manifesté. Ses disciples ont su que faire lorsqu'il fut soudainement retiré. Son corps leur fut remis, et, après l'avoir enseveli, s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé. Jean était la lampe ardente et brillante, tandis que Jésus était la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. La lampe s'était éteinte, aussi se tournèrent-ils vers la vraie lumière, et ils trouvèrent la consolation là. Ayant entendu cela, Jésus se retire en un lieu désert. Marc nous indique que c'est le moment où ses disciples sont revenus de leur mission. Une période de solitude et de tranquillité s'imposait à ce moment critique pour le maître, ses disciples et les disciples affligés de Jean, pour autant qu'il l'ait accompagné comme cela semble probable. Mais les foules le suivent encore, et il répond à leurs besoins. Comme toujours, il est ému de compassion. L'indifférence de Nazareth et la méchanceté d'Hérode n'ont produit aucun changement en lui. Penchons-nous et méditons sur les compassions immuables du cœur de Christ. Que son nom soit béni. Ce sont les disciples, et non pas le Seigneur, qui, ne pensant qu'à eux-mêmes, suggèrent de renvoyer les foules. C'est le Seigneur qui, dans sa compassion, les en empêche et les invite à donner à manger à la multitude. Les disciples sont ainsi mis à l'épreuve, et cela révèle combien peu ils avaient conscience de la puissance de leur maître. Qu'allait-il faire? Utiliser les maigres ressources qui étaient déjà entre leurs mains et les multiplier jusqu'à les rendre plus que suffisantes. Un psaume prophétique annonçait que l'Éternel trouverait son repos en Sion et que sa parole serait alors « Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasirai de pain ses pauvres. » Psaume 132, verset 15. L'Éternel était maintenant au milieu de son peuple, dans la personne de Jésus, et bien qu'il n'y eût pas de repos pour lui, en Sion à ce moment, il prouvait cependant qu'il pouvait répondre aux besoins de ses 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Il était le dispensateur des dons du ciel, aussi est-ce vers le ciel qu'il regarde en bénissant. Rappelons ici la situation telle qu'elle est présentée dans cet évangile. Jésus a été clairement rejeté par la nation, leur chef allant jusqu'à commettre le péché impardonnable en attribuant au diable ses œuvres de puissance. Cela l'a amené à briser symboliquement ses liens avec eux. C'est ce que nous avons vu dans les chapitres 11 et 12. Puis, dans le chapitre 13, il énonce les paraboles qui révèlent de nouveaux développements quant au royaume des cieux. Et, à la fin de ce chapitre, nous voyons que les gens de son propre pays ne discernaient en lui que le fils du charpentier. Le début du chapitre 14 nous a montré Hérode mettant à mort son précurseur, de sorte que, de tous côtés, son rejet ne pouvait guère être plus total. Pourtant, avant de quitter ce chapitre, nous y trouvons l'exposé de deux grands faits. D'abord, que Jésus est parfaitement suffisant lorsqu'il est en présence des besoins des hommes, qu'il s'agisse de la misère de la foule ou de la faiblesse des disciples. Secondement, qu'il n'est dépassé par rien lorsqu'il se trouve confronté à des puissances maniées par l'adversaire. Non seulement il marche lui-même sur la mer déchaînée, mais il donne à un faible disciple le pouvoir d'en faire autant. Il a passé la nuit à prier sur la montagne, et les disciples ont lutté contre les circonstances adverses. Le matin, il va vers eux, marchant sur la mer. Précédemment, au chapitre 8, il avait montré qu'il pouvait calmer la tempête, puisque sa puissance était supérieure à toute celle du diable. Maintenant, il se manifeste dans sa suprématie absolue. La tempête n'était rien pour lui. Elle était une cause de détresse pour les disciples, mais il y avait là celui dont il est écrit « Ta voix est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues. » Psaume 77, verset 19. Sa présence les réconforte, bien que la tempête continue à faire rage. Et quand il est dans la nacelle, le vent tombe. Mais le Seigneur apporte avec lui davantage que du réconfort, et c'est la découverte que Pierre fait. Il peut rendre conforme à lui. Pour Pierre, cela signifiait qu'il fallait quitter la nacelle, et il ne pouvait le faire que sur l'autorité de la parole, « Viens », qui prouvait que c'était le Seigneur lui-même qui s'approchait d'eux. Convaincu que c'était bien lui, sur la foi de sa parole, Pierre s'avance et marche sur la mer. Nous pouvons voir là une allégorie de ce qui allait bientôt se passer. Le système juif, qui reposait dans une si large mesure sur la loi des commandements, qui consiste en ordonnances, Éphésiens 2, verset 15, était semblable à un bateau tout à fait adapté à des hommes dans la chair. Comme résultat de sa venue, les disciples devaient quitter ce bateau pour un sentier de pure foi. Aussi, lorsque Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il ne les recommande pas à un code de loi, ni à une institution ou à une organisation, mais à Dieu et à la parole de sa grâce. D'où, également, l'exhortation à sortir hors du camp en Hébreux 13. Pierre était descendu de la nacelle avec Christ pour objet et sa parole comme autorité. La position chrétienne est hors du camp, avec Dieu et avec la parole de sa grâce. Mais la foi de Pierre était petite, et dès le moment où il détourne ses pensées de son maître, pour les fixer sur le vent violent, il a peur et commence à enfoncer. Néanmoins, il avait la foi, car dans sa détresse, il crie tout de suite à son Seigneur. Il est alors secouru, et ils retournent ensemble dans la nacelle. Le vent tombe aussitôt, et ils regagnent la terre, comme nous le montre l'Évangile selon Jean. Pierre était tout à fait illogique dans ses craintes, car il ne nous est pas davantage possible de marcher sur des eaux calmes que sur une mer agitée. Mais nous lui sommes tous semblables lorsqu'une petite foi seulement nous anime. La foi qui est entièrement centrée sur Christ est forte, tandis que celle qui est occupée des circonstances est faible. Nous entendons parfois trop parler du manquement de Pierre et pas assez de ce que la puissance de Christ l'a rendu capable de faire, malgré sa petite foi. Après tout, il n'a pas enfoncé. Il a seulement commencé à enfoncer, et ensuite, soutenu par une puissance extérieure à lui, il a rejoint le Seigneur et a regagné avec lui le bateau. Personne d'autre n'a fait une chose semblable, et sa défaillance momentanée a uniquement servi à manifester que la puissance qu'il avait secourue était celle de son Seigneur. Tous lui rendent alors hommage et le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Ils ont eu un aperçu impressionnant de sa gloire, gloire qui brille de nouveau lorsqu'ils arrivent dans la contrée de Génézareth, où les hommes de ce lieu-là honorent sa grâce aussi bien que sa puissance. Tous ceux qui se portent mal accourent vers lui, et leur foi n'est pas déçue, car tous ceux qui le touchent sont complètement guéris. La vraie guérison divine est une guérison à 100% dans 100% des cas. Un état de choses parfaitement merveilleux.